s'il vous plaît, dans Psaume 139. Psaume 139. On va lire à partir du verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, et le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de moi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu bénisse sa parole.
Vous allez souffrir. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas à cause de ma prédication. La vie est belle. Un beau petit garçon, tout souriant, qui semble tout feu, tout flamme. Et là, on regarde la vie, puis on se dit, « Waouh, c'est beau! » Et ceux qui rejettent Dieu, qui veulent rejeter Dieu, la façon de s'y prendre de façon générale dans les livres, c'est de prendre l'histoire d'un enfant. Et à travers l'histoire de cet enfant, il cherche à dresser une espèce de portrait dans lequel tout va mal, et puis là, il se dit, si Dieu est bon, Dieu, regarde, comment t'expliques ça? Et on regarde ça, puis on se dit, c'est vrai, un enfant qui souffre, ça n'a pas de sens. La vie est belle. Voici Médéric à la naissance. Médéric, tout comme Ruben, qu'on a mentionné, aujourd'hui, les photos, j'ai pris celle de Médéric parce que j'ai la permission de sa mère aussi de raconter un petit peu l'histoire. Mais je veux utiliser Ruben et Médéric, deux enfants en bas âge, l'un lutte avec un cancer, et puis Médéric qui a des problèmes au cœur cardiaque, plusieurs opérations. Depuis, il y a 20 mois environ? Deux ans, un petit peu plus de deux ans, et puis déjà rendu à sa septième opération, trois à cœur ouvert. Tu sais, on regarde ça, puis ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, on regarde ça, puis on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et puis Médéric, ben, on le voit aussi avec sa maman, sur les lits d'hôpital, un petit peu plus vieux, et puis on le voit aussi avec son père, c'est très tôt aussi dans la vie de l'enfant. Et puis, on regarde ça, puis on se dit, waouh, où est Dieu? Et les chrétiens, on n'est pas différents de ceux qui veulent rejeter Dieu. On regarde ça, puis on se pose toutes les mêmes questions. Et la souffrance va nous atteindre un jour ou l'autre. Jésus nous disait, vous allez avoir des tribulations. On va vivre des choses. Et si vous n'en avez jamais vécu, tantôt on a posé la question, il y en a qui étaient peut-être gênés, attendez, ça va venir. Parce que vous allez souffrir. Et si vous ne souffrez pas, ben c'est peut-être parce que vous ne vivrez pas assez vieux. Mais pour d'autres, à la naissance, il fallait opérer. Et puis les parents, dans un cas comme ça, ben eux aussi, ils souffrent d'une façon différente que l'enfant, mais quelle espérance. Et pourquoi prendre ces exemples aujourd'hui? Premièrement, le contexte de cette prédication, c'est que ce sont deux enfants qu'on supporte dans la prière. Il y a des groupes de prière, des cellules qui se rassemblent. On prie pour eux à l'Assemblée. Et deuxièmement, c'est il faut prendre ça en tant qu'Église parce que ça permet à une Église de se rapprocher les uns des autres. Parce qu'on regarde ça puis on se dit, waouh, ça pourrait être mon enfant. Ça pourrait être moi. Et on sait tout que du jour au lendemain, on a perdu mon père à 51 ans. Ma mère, elle arrivait à l'hôpital et c'était fini. Ça a pris 30 secondes, merci, bye, personne n'a vu venir. On a perdu un enfant fœtus. Gabriel a perdu un enfant à la naissance. Tu sais, il y a des choses comme ça qui... Ça peut nous arriver, paf, on ne s'en attend pas, puis on est dedans. Il faut prendre ça pour s'encourager, parce que l'Évangile est notre espérance. Mais l'Évangile n'est pas indifférent à notre souffrance aussi. Et aussi, il faut apprendre à encourager les personnes dans le besoin. Et sur ce point, je crois, puis que c'est un des plus grands besoins de cette Église présentement. Et j'aimerais l'illustrer de façon pratique. La semaine passée, dimanche, un de mes amis, je le rencontre le lundi, pour un café chez nous ensemble. On se met à parler, puis à un moment donné, on parlait de la souffrance un peu, puis je dis, comment ça va? Ah, moyen. On s'est mis à parler un peu de la prédication puis du sujet, puis il me disait, c'est vrai, il dit, hier à l'église, il dit, j'ai rencontré plusieurs personnes, et puis on me demandait, hey, comment ça va? Puis lui, ce genre de personne assez direct, bof, moyen, bof. Et savez-vous combien de personnes lui ont demandé ou ont cherché à comprendre pourquoi il n'allait pas? Aucune. Ma tâche est donc de prendre les vérités de la parole puis de les marier à notre réalité de la souffrance. Et commençons par le contexte du psaume 139. Ce psaume, et on comprend pourquoi, a la réputation d'être utilisé énormément dans les prédications concernant l'avortement. C'est toi qui me connaissais, c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Avant même que je naisse, tu avais un plan pour moi. On comprend facilement pourquoi on l'utilise dans des cas comme ça. Mais il est peut-être utile aussi pour autre chose, entre autres, en parlant des enfants et en parlant de la souffrance. Et pourquoi qu'on peut faire le lien entre ces deux sujets? À cause du contexte du psaume. Le psaume est bien divisé. Et la dernière section, à partir des versets 18, à partir du verset 19 à 24, on comprend que David vit des combats. Il prend position pour Dieu, et ceux qui rejettent Dieu en ont contre David. Ils veulent le faire périr, et puis là, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Et puis David chante. Il chante l'omniscience de Dieu, Dieu qui connaît toutes choses. Il chante l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Dieu, il est partout. Charles Spurgeon nous dit, « Ce psaume nous met en garde contre l'athéisme pratique qui ignore la présence de Dieu et ainsi, il fait naufrage à l'âme. » Rejeter Dieu fait naufrage à l'âme. Et Charles Spurgeon nous dit, « David chante la gloire de Dieu malgré les circonstances où est-ce qu'on a le goût de crier, où est-ce que tu es? » Et la présence de Dieu... pour David est importante. Il semble faire le bilan de sa vie. Ce genre de question, sur qui ou quoi puis-je compter? Qu'ai-je en ma faveur? Et David trouve sa réponse dans la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle toute chose. Rien n'échappe à Dieu. Et il tire sa force, et au lieu de faire comme les méchants qu'il rejette, qu'il se sente coupable, Dieu trouve sa joie en David. David trouve sa joie en Dieu. à cause de ces soins que Dieu va lui donner. Et on peut diviser ce psaume en quatre sections. Premièrement, on voit que David affirme la connaissance intime et personnelle que Dieu a de lui dans les premiers versets. David affirme l'omniprésence de Dieu avec lui et David affirme la souveraineté de Dieu dans sa création. Et David répond à l'amour de Dieu avec un cœur ouvert et consacré. Et aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à ce troisième point, la souveraineté de Dieu dans sa création. Dans les sujets de la souffrance, cette section est très pertinente. Il y a des ramifications aussi diverses qu'on peut faire avec l'espérance du croyant. Et c'est pour ça que je vais m'attarder sur cette section. Ce que nous voyons dans les versets 13 et 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » David est émerveillé. La création rend un témoignage à la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de ça, que Dieu s'est révélé d'une certaine façon dans la création, et puis que Dieu il est glorieux. C'est beau la création, mais derrière cette création, Dieu est encore plus grand. Et David attire l'attention sur le fait que le Dieu de cette création est encore plus merveilleux que ce qui nous apparaît à nos propres yeux si merveilleux. Il voit dans le contexte de l'éternité et non du temps. Et qu'est-ce que la Bible a dit à ce sujet? Ce n'est pas les seuls passages. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et fait. Voici le but de notre création. Et David le reconnaît. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Il y avait un plan pour nous. Mais quand celui que j'avais mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, par grâce, il appelle des personnes qui ne sont même pas encore nées. Et le plan de Dieu pour Ruben et Médéric était décidé avant même leur naissance. Et ces enfants existent pour la gloire de Dieu. Nous, en tant qu'humains, on cherche à comprendre quand est-ce que la vie commence. Si tu as 6 semaines de grossesse, je dis jusqu'à quand que je peux pratiquer l'avortement? La réponse biblique, c'est même pas ça. Il était même pas né, qu'il avait déjà décidé que ces personnes existaient pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire, qu'il prenait plaisir en ce qu'il allait faire avec ces personnes. Pas une question de date, de problème dans le ventre de la mère. Et David attire notre attention sur au moins 2 choses. Premièrement, que notre Créateur est un Dieu personnel. Le psalmiste reconnaît que nous sommes des créatures merveilleuses. Ceux qui rejettent Dieu doivent croire, d'une façon ou d'une autre, que le temps, l'énergie et la matière ont engendré des personnes. Pas sûr qu'on comprend toutes les implications de ça. Mais la Bible, c'est pas ce qu'elle dit. Et c'est surtout pas ce qu'elle dit en lien avec la création des humains. Genèse. Quand il parle de la création, il nous dit qu'il a fait les choses à partir de rien. Il n'y avait rien, et puis il a fait venir à l'existence ex nihilo. Mais quand il arrive à la création de l'homme, il utilise un terme qui est utilisé pour désigner le potier qui façonne Adam. Il prend la poussière et il forge et il met son image dans l'homme. On a un Dieu personnel. Et ici, dans notre psaume, il nous dit qu'il a Dieu qui, dès le sein de la maternelle, il tisse, il forge. Et donc, ce qui confère de la valeur à nos enfants, dont Médéric et les nôtres et vous, finalement, à tout humain, c'est que nous sommes faits à l'image du Créateur. Si nous sommes seulement le fruit de la matière, de l'énergie et du temps, d'où provient votre valeur? Qu'est-ce qui différencie de vous, d'une grenouille, d'un sapin, d'un gaz, d'une roche? Non. Ravi Zacharias nous dit ceci. Il est impossible de conférer de la valeur à une personne à moins que cette valeur ne soit intrinsèque en elle-même. Et il est impossible que cette valeur soit intrinsèque à moins que cette personne n'ait été créée par un être d'une valeur suprême. Nous ne sommes pas des grenouilles qui se transforment en princes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et David reconnaît que nous sommes des créatures merveilleuses parce que nous faisons partie d'un processus de création de ce Dieu personnel. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Dieu nous a façonnés. Mais aussi, il reconnaît qu'on est des créatures merveilleuses à cause de notre connexion avec le Créateur. Et mon âme le reconnaît bien. Je ne veux pas ridiculiser les personnes qui rejettent Dieu. On n'est pas différent. On le rejetait. Mais si vous pensez qu'on provient de la matière, du temps et de l'énergie, d'où vient notre valeur? Dans un sens, notre cœur nous dit autre chose que ce que notre théorie dit. Nos théories disent qu'on vient d'un gaz qui s'est transformé en poussière et qu'on est devenu quelque chose. Mais notre cœur nous dit que mon enfant, il a une valeur. Ça ne marche pas. Et là, on élève la question au niveau du pourquoi. Pourquoi ces choses arrivent? Nous sommes un processus merveilleux de la création personnelle de ce Dieu. Nous sommes connectés, il nous a mis son image en nous. Ce qu'on a besoin, c'est de Dieu. Et David veut nous montrer aussi que Dieu a planifié lui-même notre destinée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Et ici, la Darby, de façon plus littérale, utilise le mot précieux. Les pensées de Dieu sont précieuses à ceux qui veulent s'approcher par la foi. Et le psalmiste est clair. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a créées. Par conséquent, Médéric, Ruben sont des créatures merveilleuses de Dieu. Par conséquent, les parents de Médéric et de Ruben sont des créatures merveilleuses de Dieu. Et par conséquent, vous êtes aussi des créatures merveilleuses de Dieu qui portent l'image de Dieu en vous. Et Dieu donne des cadeaux à des parents, ses enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont là pour la gloire de Dieu. Et ces enfants ont été placés dans des familles qui ont la plus grande espérance qu'il n'y a pas, Jésus-Christ. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Intéressant. Comment puis-je exalter Dieu dans des temps difficiles? Surtout si on prend nos enfants et on dit, ben là, ça marche pas, là. La réponse est ceci. Je peux exalter Dieu dans les temps difficiles parce que Dieu me préserve. Je me réveille et je suis encore avec toi. David contemple Dieu et Dieu soutient David. Il ne laisse pas aller. Dieu prend une part active à la vie des personnes qui s'approchent par la foi. Il nous dit qu'on est une création merveilleuse, mais lui est encore plus merveilleux. Et une des clés pour combattre la souffrance, c'est pas juste de regarder à quel point que mon enfant est une créature merveilleuse, mais c'est que vous voyez que vous êtes aussi une créature merveilleuse. C'est pas en tant que fœtus que David a écrit ce verset-là. C'est en tant que personne qui souffre et qui prend la peine de sonder qu'est-ce que Dieu fait pour lui à travers toutes ces choses. Et il reconnaît qu'il est en train de le façonner. Même, ça a commencé dès le ventre de sa mère, mais ça continue. Et puis, il y a l'espérance que Dieu va intervenir en sa faveur et il va intervenir. David connaissait les promesses faites au peuple qu'il avait choisi. Et j'espère que vous voyez le lien personnel avec vous et votre souffrance. Parce que vous allez souffrir. Mais vous êtes aussi une créature merveilleuse de Dieu qui peut trouver leur espérance en Dieu. Dieu peut vous soutenir en s'approchant de lui par la foi. Et Dieu va nous préserver. Mais pourquoi la souffrance existe-t-elle? On regarde la création, on est tous époustouflés, on aime ça. Il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner. Et la Bible est assez directe sur cette question. En fait, les trois premiers chapitres de la Bible parlent que Dieu a créé les choses, mais que dans cette création qui voulait parfaite pratiquement, il avait planté dans un jardin des personnes qui pouvaient avoir une relation libre avec lui, et puis soudainement, ils ont décidé de ne pas glorifier Dieu, puis de connaître et d'enfreindre la seule règle que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent, ils ont mangé le fruit. Et à ce moment, ce fut immédiat et catastrophique, il y a eu des conséquences. La mort est entrée. Et ça soulève une autre question. Pourquoi Dieu a permis ça? Une partie de la réponse provient aussi de la Genèse. La première promesse dans la Bible, je pense, c'est la promesse que s'ils mangeaient le fruit, on allait mourir. Belle promesse. Nous allons souffrir. Mais elle était suivie d'une autre promesse. Quelqu'un qui va venir nous racheter. Nous avons perdu cette communion avec Dieu, mais Dieu lui-même va revenir rétablir cette communion qu'on avait avec lui et qu'on a perdue. Et la Bible, c'est quoi? Après le troisième chapitre de la Genèse, Dieu qui court après nous. Dieu qui nous poursuit. Dieu qui veut nous faire grâce, qui veut nous faire du bien. C'est ça, c'est l'histoire de la rédemption. C'est l'histoire de Dieu qui veut racheter des personnes qui veulent rien savoir de lui. Et on n'est pas différent de ceux qu'il rejette. C'est parce qu'il fait grâce. Et toutes nos souffrances se produisent justement au beau milieu de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'histoire de Dieu qui court après nous, ce qu'on appelle la rédemption, qui veut nous racheter. Permettez-moi de le dire d'une autre façon. L'horreur physique dans notre monde sert d'image vivante pour l'horreur du péché. Il a permis au péché d'entrer dans le monde pour faire une place pour Jésus, pour venir mourir pour nos péchés. 2 Timothée 2:1 nous dit ceci. 1:9, excusez. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein, de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, Qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie par l'incorruptibilité de l'Évangile? Avant même qu'on existe, la croix était prévue. Le sommet de la révélation de la grâce de Dieu se fait à travers l'acte le plus ignoble que l'univers a supporté. Et si on pose la question en termes chrétiens, si Dieu est bon, pourquoi? Et si je la pose en termes chrétiens, si Dieu est bon, comment est-ce qu'il a pu permettre à Jésus de mourir, lui injuste, lui qui était juste pour nous injuste? La question commence à faire un non-sens. C'est lui-même qui se donne pour nous. Romains 5,8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu devient clair au moment où ce que Christ est mort. Si la mort n'existe pas, la gloire de Dieu n'éclate pas. C'est par sa mort qu'il nous donne la vie. Et ce qu'on observe dans le psaume 139, c'est ça. Dieu connaît David. Il poursuit David. Il désire y faire grâce. Et il préserve David. Et vous aussi. C'est pas un joueur d'échecs, Dieu, dans lequel, j'ai manqué ma shot à la création, ils ont tombé. OK, quel est le meilleur coup suivant que je peux prendre pour essayer de rattraper? Non. Tu sais, Ruben et Médéric, c'était pas une erreur dans le plan de parcours de Dieu. Là. Ils savaient ces choses-là. Là. Et si vous souffrez, Dieu n'est pas surpris de ça. Là. Il n'est pas surpris de ça. Mais comment la vie de ces jeunes enfants qui souffrent peuvent donner une quelconque indication que Dieu est puissant, glorieux et fidèle? Et je vous répondrai par une autre question. Pensez à ces enfants ou à votre souffrance, et comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez de la compassion pour eux? Sentez-vous de l'amour pour ces enfants? T'sais, on voit ça, sentez-vous un désir de prier pour ces enfants? Et comment que vous pouvez sentir ces choses-là? C'est parce que l'image de Dieu est en vous. Et la joie de Dieu, une des joies de Dieu, c'est d'aimer les personnes fragiles, faibles et qui ont des besoins. Et votre compassion et votre amour pour ses enfants reflètent la nature de Dieu. Et Dieu est donc notre espérance. Don Carson a dit ceci, « Dieu est donc notre espérance. Une des pires cruautés, c'est la destruction de l'espérance. Nous vivons de l'espérance. De façon générale, quand il n'y a plus d'espérance, il y a quelque chose d'autre qui le remplace. Il peut arriver qu'il n'y en ait plus. » Et là, il s'est mis à donner l'exemple de nos vieillards dans les foyers. Plus d'espérance. L'espérance nous donne une raison de vivre et confère de l'importance à nos actions. Quelques réflexions sur l'espérance. Il y a une connexion entre le psaume 139 et l'Évangile. Dieu court après sa création, mais il y a des personnes qu'il rejette et nous faisions partie de ces personnes qu'il rejetait. Mais Dieu décide de faire grâce. Et ça, la souffrance et les questions qu'on se pose dans les temps de souffrance peuvent être des situations qui mettent en évidence le fait que, justement, on a une tendance à s'éloigner du Créateur. Mais à travers ces situations, Dieu veut nous forger, nous amener à le connaître, lui. Et l'espérance de David, c'était pas passager, qui, ça ne dépendait pas des circonstances, mais au fond, la vraie question concerne moins les circonstances dans lesquelles on se trouve que la personne de Dieu. On ne pose pas la question par rapport à Ruben ou Médéric, oh, qu'est-ce que le cancer? Non, la question c'est pourquoi? Et si Dieu est bon, donc la question concerne Dieu. Et la réponse c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu préserve, Dieu nous garde, Dieu fait grâce. C'est les termes de l'Évangile. L'espérance de David, ce n'est pas un réconfort psychologique qu'il cherche, c'est quelque chose de plus grand que ça. C'est une espérance qui a plus de portée, qui s'en va et conduit-moi sur les voies de l'éternité. Ça va plus loin que ça. Mais aussi l'espérance, c'est que c'est Dieu qui la soutient par la foi. C'est Dieu qui préserve. David peut s'émerveiller parce que Dieu le préserve. Mais aussi, Dieu va nourrir cette espérance dans les circonstances qu'on va se trouver. Et à travers les difficultés, Dieu nourrit cette espérance en augmentant notre intimité avec Dieu, avec lui-même. Et la grâce, ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver dans le futur, ça commence présentement, là. Et là, bien, il y a trois notions qui sont connectées ensemble. L'espérance, l'Évangile, puis les notions concernant le psaume 139. Le mot « espérance » n'est pas dans le psaume 139. Le mot « évangile » aussi. Quelle est la connexion entre les trois et quelle façon qu'on peut connecter ces choses-là ensemble? Et le mot « foi » d'ailleurs n'est pas là. Bien, pour moi, la réponse est simple, c'est qu'à mon sens, on devrait trouver un texte qui rassemble toutes ces informations ensemble. Il y en a un qui m'est venu à l'esprit, et quand Will, justement, a appelé, je méditais sur ce passage, sur l'espérance, et c'est Romains chapitre 5, et je vous invite à tourner. David vivait... J'ai un blanc de mémoire. Doug, tu peux me corriger. C'est-tu 1000 ans avant Jésus-Christ dans ces bouts-là, environ? Mais il était de l'autre côté de la croix. Nous, on est de l'autre côté. Mais ce cantique, le psaume, c'est un psaume qui était chanté. C'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Les notions qui sont dedans pointent vers une réalité. Juste pas, c'était pas lui qui chantait. Là. C'est tout le monde qu'on peut se voir là-dedans. Et nous, on est de l'autre côté de la croix, et les mêmes notions sont présentes. 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la persévérance. Et la persévérance, une fidélité éprouvée. Et cette fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait eu le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est les termes de l'Évangile. C'est les notions qui sont contenues dans le psaume 139. L'espérance, c'est une conséquence de notre justification par la foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau de la grâce de Dieu pour nous. Et on se glorifie de ça. Ça a une portée qui va jusque dans l'éternité. Mais en même temps, sachant, et le terme ici, c'est une cause et effet. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. On a des tribulations. Sachant ça, La tribulation va produire la persévérance. La persévérance, une fidélité, et la fidélité, l'espérance. Qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 139? David qui se questionne, il voit que Dieu court après lui, et puis là, il vit des tribulations, et là, Dieu le préserve. Et Dieu le préserve, et David est fidèle, et David a cette espérance que ça finit dans la vie éternelle. Et pour nous croyants, c'est basé sur la foi en Jésus-Christ. Toutes nos souffrances se produisent au beau milieu de quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'histoire de la rédemption. Dieu qui veut racheter un peuple pour lui. L'amour de Dieu devient clair au moment où il est mort pour nous. La gloire éclate. L'espérance est une des bénédictions du chrétien. Il n'y a pas d'autre philosophie sur cette planète qui peut donner une espérance meilleure que ça. Il n'y en a pas. Je faisais un cours en histoire en sciences des religions à l'Université Laval, puis on faisait un topo des grandes religions, tu sais, les principales, qui, à partir de ces religions-là, il y a plein de ramifications dans toutes sortes de choses. Il n'y a pas d'espérance. C'est basé sur quelque chose qu'on ne sait pas. Mais Dieu a mis Jésus, il est ressuscité. On peut être certain qu'il se produit quelque chose, mais Romains nous dit que Dieu va travailler aussi, parce que l'espérance, il l'amène d'une troisième façon. Oui, c'est à cause de notre justification. Oui, c'est une cause à effet de cette justification, mais en même temps, c'est le travail de Dieu dans le croyant. Et si on regarde, il nous dit que l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, il y a un changement, un renouveau dans notre moralité. Et on voit le travail de Dieu quand on change cette mentalité ou ce qu'on rejette plus Dieu. On le voit dans le psaume 139. Et aussi, on voit qu'il va travailler par l'expérience de l'amour par son Saint-Esprit dans le croyant. Vous aimez, c'est le travail de Dieu. Soyons pratiques. Vous ne perdez pas votre temps quand vous priez pour Ruben et Médéric et pour leur famille, ainsi que toute la liste des malades qu'on a dans notre écho et tous ceux que vous connaissez. C'est une joie pour Dieu d'aimer ces personnes qui sont fragiles, qui ont des besoins. Et ça peut favoriser l'unité dans l'Église et l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain et cette connaissance intime avec Dieu. Soyons pas surpris par la souffrance qu'il y a dans le monde. On n'a pas à être surpris de ça. On vit entre la chute et le retour du Seigneur. Et il va revenir. Mais on prend ses enfants, puis c'est une bénédiction pour ses enfants d'être placés dans deux familles qui connaissent cette espérance. Combien de réponses superficielles j'ai pu donner à des personnes qui souffraient? Puis probablement que vous aussi, tu sais, Romains 8, 28, qu'on apprend par cœur, tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu sais. Non, l'Évangile, c'est pas apprendre des versets par cœur, c'est important. Je dis pas que c'est pas important. Mais il y a un contenu à ça. Mais l'Évangile, c'est pas juste un contenu, mais ça définit le style avec lequel on va communiquer l'Évangile. Deuxièmement, chez certaines personnes, la question du pourquoi, c'est moins une question qu'une demande de réconfort. Soyons sensibles à ça. Tu sais, mon maître de stage, quand j'étais à l'université, je pense que je l'ai déjà compté, et puis c'était trois. Mon stage avait été décalé après mon baccalauréat parce que mon père était décédé trois semaines avant. Fait qu'on avait reculé mon internat de deux semaines. Et je terminais mon baccalauréat. Et puis mon maître de stage qui était présent avec moi, il avait une quarantaine d'années, mais quand il avait 27 ans, et à la dernière journée de mon stage, on prenait un café ensemble, on s'est mis à jaser, puis là, il savait que j'étais chrétien. Et là, ben, un scientifique chrétien, ça ne marche pas. Puis à un moment donné, lui, la question c'était, écoute, Jean-Luc, moi, là, j'ai vu mon frère, quand j'avais 27 ans, se noyer en avant de moi. Je tendais la main, puis je n'ai pas été capable de me rendre. Mon stage avait été décalé de 2 semaines, et 1 mois plus tard, après mon stage, il a fallu que lui parte, parce que son 2e frère était décédé d'un cancer, et lui, il restait dans un duplex avec lui. Et c'est lui qui donnait les soins pendant 2 ans. Et là, il est décédé au courant du stage. Il revient au travail 1 mois plus tard, après la dépression. Et 2 semaines après, je crois que c'est sa grand-mère qui est décédée. Bref, on a fini notre stage quelques semaines plus tard. Et là, on se met à discuter de l'Évangile. Et puis j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais en face de moi une personne à qui j'avais aucun argument. Et vous commencez à me connaître, là, vous savez, j'aime ça débattre dans les universités, j'aime ça répondre à des questions, et j'étais complètement dépourvu. J'écoute mon ami, Jésus sur la croix crier, « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Ne le soyons pas aussi pour les autres. Et prions. Il est certain qu'on n'est pas toutes des personnes qui ont la capacité de répondre à plein de questions puis à les encourager de façon facile. T'sais, on ne travaillera pas toutes aux soins palliatifs. Là, mais on peut toutes prier, par contre. On peut toutes prier. Et en tant qu'Église, on doit se rappeler que c'est une des choses qui tient l'Église ensemble. Et c'est ce qui encourage aussi les personnes qui souffrent. Je termine avec ceci. Nous nous reposons dans sa grâce qui nous embrasse avec la sécurité telle que nous pouvons connaître la paix dans notre douleur, la joie dans notre chagrin, et l'espoir qui persévère jusqu'à ce que celui qui nous aime, au-delà de toute notre faiblesse et notre souffrance et notre péché, nous unisse à lui dans la gloire. Il n'y a pas de plus grande espérance que l'Évangile. Et l'Évangile s'intéresse à vous, parce que vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Et Seigneur, vous bénisse, on va prier.